En flux libre, l'émission. Bonjour à tous, bienvenue dans En flux libre pour nos traditionnelles causeries libristes et libertaires avec cette semaine une meilleure fluidité dans l'émission. Ouais, parce que au départ en fait il y avait un nouveau générique et puis finalement comme on n'a pas eu le temps de boutiquer tout ça, voilà, on a dû refaire la reprise une deuxième fois. Donc grâce à l'adoption enfin d'un conducteur minuté, mais on vous laisse le soin de découvrir tout cela et de faire vos commentaires. D'ailleurs, j'en reparlerai à la fin de l'émission. Pour m'accompagner, comme toujours, dans cette mission libriste et libertaire, c'est mon cher Alain en face de moi. Salut Alain.
Salut Justin, salut à tous.
Comment ça va?
Très bien, et toi?
Ouais, ça va plutôt bien. Ouais, on est content, on est très content de faire l'émission aujourd'hui.
Ouais.
On était content les autres fois aussi.
À chaque fois, c'est marrant.
À chaque fois, ouais. Donc au sommaire de ce 8e numéro d'Enflux Libre... Le flux d'infos, en fait, le nouveau nom pour les news. Un, parce que ça fait plus français, et deux, parce que j'avais du mal à le dire. À chaque fois que je dis les news, j'ai tendance à le déformer. Donc, pour le flux d'infos cette semaine, un état des lieux du projet Novius OS, dont on vous en avait parlé dans une précédente émission. Le Raspberry Pi, cet ordinateur à 35$, enfin ordinateur. Oui, on va dire ordinateur. On va dire ça. À 35$, victime de son succès. L'apparition d'un nouveau type de party, les copy parties, dans la même veine que la fermeture de Mega Upload. Et un nouveau plan de maintenance dans le noyau Linux. Le focus par moi-même vous fera découvrir le Arduino, un circuit imprimé qui commence à faire beaucoup parler de lui. De la musique juste après pour se détendre avec Outsider et Something Like This. La Diga Kile.
On va changer son nom aussi.
Oh oui, on va changer son nom. On va changer parce qu'à chaque fois je bute. La dégicalisation avec Alain. Qu'est-ce que tu vas nous parler cette semaine?
Eh bien, comme on en avait parlé il y a deux semaines, on va parler du démarrage du noyau et plus globalement du démarrage d'une distribution. Ce sera surtout une première partie et puis si ça vous plaît on fera peut-être une seconde partie dans une prochaine émission.
Ouais, nos explications techniques j'ai l'impression qu'ils plaisent.
Ça, oui, ça je crois, ouais, j'ai l'impression
nous,
aussi.
Nous, ça nous fait un peu des petites révisions. Donc,
exactement.
Voilà, et puis ça fait une émission diversifiée. Et enfin la sélection en flux libre avec un beau troll de la part d'Alain.
Non.
C'est la première fois qu'il en fait un.
C'est même pas du troll,
enfin,
c'est
en
du
tout
bon
cas,
sens.
C'est bien, ouais, mais en tout cas, c'est bien rigolo, hein, c'est bien marrant, on aura le temps de débattre de tout ça. Le nouveau site d'Enflux Libre, depuis le temps que, depuis le temps qu'on le disait, je me suis retenu, mais enfin, on peut l'annoncer, il y a un nouveau site pour Enflux Libre. On parlera aussi de Newiz, car une excellente nouvelle attend votre émission favorite, hein, plus attendue que Téléfoot d'ailleurs, hein, je sais pas si tu l'as vu.
Oui.
Salut à toi, auditeur qui aime Enflux Libre.
C'est Luc, c'est mon petit lapin Luc. Merci Luc.
Non mais ça me regarde pas, hein, ça c'est votre culture. Et un petit mot pour ma part de Frugalware. Mais pour l'heure, place au générique et on revient juste après pour les actualités, pardon. En flux libre, l'émission du libre et des libertés numériques, c'est parti.
En flux libre, l'émission du logiciel libre et des libertés informatiques. Présenté par Alain Devarieux et Ghislain Larose. We'll be right back.
Le flux d'infos, le nouveau nom pour les news, et c'est terminé, je ne le dis plus, de ces dernières deux semaines. Et on commence avec toi, Alain, et l'état d'avancement de Novius OS.
Novius OS, on en avait déjà parlé il y a
quelques émissions.
Il y a 3 ou 4
émissions
de ça.
On a eu des retours d'ailleurs, ils avaient eu. Il a fait une page où ils avaient expliqué pourquoi,
pourquoi
ce nom.
Ça s'appelle Novius OS.
On était un peu sceptiques.
Bah oui, oui, tout à fait, ouais. Novius OS, bah, je voulais faire un petit retour sur eux, puisque bah, ils continuent toujours leur travail. Ils travaillent très bien, d'ailleurs. Je les suis de loin, hein. Je ne vais pas leur parler ni rien, mais je viens voir de régulièrement...
Je leur ai souhaité une bonne année, moi,
ah, bah, c'est
sur
bien.
Twitter. Pas libre.
La 0.1 alpha est sortie, donc pour l'instant...
Bêta.
Bêta. Oui, tout à fait. La bêta et la alpha arrivent très 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 bientôt. Là, ça arrive vraiment sous peu. Donc, c'est toujours pas stable. Il y a encore un petit peu de débugage à faire. Mais sinon, en tout cas, quand on teste leur démo, ils ont modifié pas mal de trucs. Ça avance bien. C'est toujours aussi joli. C'est toujours aussi efficace. C'était juste pour leur faire un petit coucou. Leur dire que moi j'attends avec impatience d'avoir quelque chose de stable pour pouvoir l'utiliser et puis tester et puis voir ce que ça donne, parce que c'est vraiment très prometteur, comme on l'avait dit déjà la dernière fois.
Oui.
Donc cette petite news pour leur faire un petit coucou et puis montrer un petit peu leur avancement. Et ils ont quasiment arrêté la version 0.2, donc savoir ils ont quasiment fixé la feuille de route pour la version 0.2 et je continue de suivre tout ça, en tout cas pour eux. Voilà.
D'ailleurs, je pense qu'il y a une coquille, parce qu'effectivement sur l'entête du site on a Novius 0.1 alpha, mm-hmm. et c'est marqué bêta dans l'article, donc il y a peut-être une petite coquille.
Alors en fait la alpha est sortie et ils sont
En ordre. Ah oui, d'accord, j'avais pas lu. En ordre de marche.
Sortir la bêta bientôt.
Voilà, d'accord. Donc autant pour moi, toutes mes excuses. Et pourquoi pas le futur moteur de propulsion de notre site internet.
Hein. Peut-être bien.
Sait-on jamais. Sait-on jamais un jour. On vous attend, messieurs les développeurs de chez Novius OS.
La suite, du coup, avec le Raspberry Pi, victime de son succès, Ghislain.
Est-ce que... Je crois qu'on en avait parlé aussi, hein, mais
vite fait.
Ouais,
rapidement.
Rapidement. Je pense que dans les milieux libres et open source, c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé. Donc, le Raspberry Pi, un ordinateur low cost, vendu environ 30 à 35 $. Donc, lancé le 29 février. Et qui, quelques heures après avoir été lancé officiellement par deux revendeurs britanniques, était pas en rupture de stock, mais en tout cas les sites étaient complètement down.
Donc, et il n'y a plus de stock de toute façon.
Et il n'y a plus de stock. Donc, le Raspberry Pi, c'est une petite carte électronique, mm-hmm. Vraiment très petite, avec une architecture ARM, donc un processeur ARM. Donc qu'on retrouve bien évidemment dans des téléphones portables d'aujourd'hui, hein, les fameux smartphones, et des ports avec port USB, Ethernet et HDMI, donc quelque chose quand même d'assez costaud, parce qu'effectivement si on regarde une photo du Raspberry Pi, c'est vraiment tout petit.
Ça tient dans la main.
Ouais, ça tient dans la main. Et donc l'ordinateur utilise, comme le développement est plus ou moins open source, utilise des distributions Linux. Donc il y a eu, je crois, une version de Debian, une version de Fedora et Arch Linux,
oui,
aussi qui a
été
annoncée.
Oui.
Donc il y a 256.
Excuse-moi, oui. Je te coupe. Vas-y, un peu. J'ai voulu en acheter un quand c'est sorti. je suis allé sur le site, j'ai fait d'accord, c'est déjà fini.
J'attends aussi. J'attends d'en acheter un. Et 256 mégas de RAM. Bon, c'est vrai que c'est pas.
Ça
pas
dépend, il y a une version.
Il y a une version plus haute.
Plus haute, oui, ouais. 512 ou 1 giga, je ne sais plus.
D'accord. Donc, c'est un ordinateur à bas coût, lancé par la Raspberry Pi Foundation, organisation caritative, qui vise en fait plusieurs objectifs. En tout cas, le plus grand objectif qu'ils annoncent, c'est d'inciter les jeunes utilisateurs à faire de la programmation. Donc, par exemple, en classe, pour des enfants qui sont en primaire ou au collège, c'est une approche, en tout cas à mon sens, très intéressante pour pas le bidouillage, parce que je dirais que c'est plutôt bas niveau, mais en tout cas pour comprendre la physique, parce qu'évidemment, oui, il y a de la physique, il y a toute une histoire de circuits électroniques, la physique, les mathématiques, pardon, et l'informatique, voilà, forcément.
Ça permet surtout d'équiper, de s'équiper à bas prix, d'équiper des classes entières à bas prix pour
et voilà,
utiliser,
oui, voilà,
des ordinateurs, faire de la programmation, même faire d'autres choses, de l'utilisation,
oui,
basique.
Tout à fait.
Donc, très intéressant. Ouais.
Et si j'ai annoncé cette news-là, je vous l'annonce aujourd'hui, c'est parce que juste après, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, on vous parle d'Arduino.
Oui.
Parce que voilà, ça se rapproche du concept, même si c'est pas tout à fait la même chose, hein, notamment au niveau matériel, mais ça s'en rapproche. Quelque chose, un petit circuit électronique, programmable, où faut pas trop savoir quand même programmer pour commencer à y toucher. Donc voilà, on en reparlera juste derrière. Toujours est-il que je crois que les sites sont toujours down, hein, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, pas down, mais
les sites sont fonctionnels,
mais en tout cas, il n'y a plus de stock.
Il faut en refabriquer.
Oui, voilà. Donc, pour l'instant, c'est mort pour si jamais vous aviez l'envie d'acheter un Raspberry Pi.
D'ailleurs, les sites web avaient été prévenus que ça risquerait d'être un peu le rush sur leur site.
Mais c'est un peu étonnant, hein. C'est un peu étonnant parce que
les gars des sites web ont dit non mais vous inquiétez pas, nous on vend du matos pour professionnels, on a l'habitude d'avoir du monde,
voilà,
etc.
Et voilà.
Ils ont pas fait un pli, quoi.
Il y a eu un buzz énorme aussi.
Désolé
de dire le mot parce que j'ai horreur de ce mot, mais il y a eu quelque chose d'assez énorme finalement parce que
c'était très attendu en fait.
Et voilà, sur les réseaux sociaux, ça me fait un peu entre guillemets de le dire, mais voilà, sur les réseaux sociaux ça a été annoncé, les sites d'actualité informatique, en tout cas il y a eu un énorme bruit autour et voilà, aujourd'hui il y est, mais il est en rupture de stock. Donc on vous tiendra informé si jamais on a deux ou trois stocks à la maison. En tout cas moi j'ai projet d'en acheter un, ça c'est sûr.
Ouais, j'aimerais bien aussi.
Donc voilà. Alain, la prochaine actualité, il va falloir que je m'habitue, parce que je ne sais pas dire news, c'est pas la peine. La prochaine actualité, c'est copy party. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé ?
C'est pas un truc de pirate, justement.
Non, de tipiac.
C'est ça qui est bien, de tipiac. une copy party, donc c'était le 7 mars dernier à La Roche-sur-Yon. Une copy party a été organisée. Alors, une copy party, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, on demande aux gens de venir dans une bibliothèque publique et puis ils viennent avec leur ordinateur, leur scanner ou avec leur smartphone par exemple ou leur appareil photo et ils font des copies des bouquins qui se trouvent dans la bibliothèque. Tout ça parce que alors pendant un bon moment il y a eu un vide juridique au niveau, c'était un petit peu dans une zone grise, savoir est-ce qu'on avait le droit ou pas de copier les bouquins qui sont dans les bibliothèques. Et puis il y a une loi récemment, l'année dernière je crois, qui est passée, disant que les copies de bouquins qu'on fait dans les bibliothèques rentrent dans le cadre de la copie privée. Donc, tout simplement pour dénoncer un petit peu tout ce qui est fait autour de autour du droit d'auteur, eh bien, il y a un petit groupe de personnes qui a décidé de lancer cet événement-là pour que les gens puissent venir faire des copies et puis montrer que le droit d'auteur, ça sert à rien non plus de taper sur les gens systématiquement et qu'on peut qu'il serait sans doute intéressant de trouver une nouvelle solution par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais en parler, hein, parce que.
Et ça, c'est tu parlais du vide juridique, hein, tout début de l'actualité.
Mm-hmm.
Vide juridique qui a plus ou moins comblé Google, mais de force, avec les fameux livres copiés. Alors, il y a eu des accords avec la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France.
Tout à fait.
Et, donc, bon, ça, Google a un peu forcé, un peu. On peut faire du forcing.
Là, ça
pour
fait
numériser.
Pas partie de la copie privée. C'était vraiment, il y avait un souhait de la Banque nationale de France de numériser leurs œuvres, et ils savaient pas trop comment s'y prendre parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques et financiers de le faire eux-mêmes. Donc, ils voulaient faire d'abord appel à des groupes privés. Ça coûtait extrêmement cher. Et puis Google leur a dit, nous, on fait ça gratuitement si vous voulez.
La puissance de la gratuité de Google.
Voilà,
donc.
Exactement. Donc voilà. La suite.
Et donc la copie partie, hein, parce que c'était une copie partie qui s'était déroulée le 7 mars dernier. Voilà.
7 mars à La Roche-sur-Yon.
Et c'était à La Roche-sur-Yon.
Voilà. Et il y en aura sans doute d'autres d'organiser.
Oui, je pense
dans,
que c'est une initiative.
Dans d'autres villes.
Et c'est marrant parce que copie partie, ça fait un peu écho avec toute l'actualité de ces derniers deux mois.
Exactement, c'est ça, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Donc voilà, tout un symbole sans doute derrière ce nom copie partie.
Voilà. La suite, Ghislain, avec une petite rétrospective sur le noyau 2638.
Alors, c'est plus une news qui explique deux, trois petites choses plus ou moins vagues, parce que là, ça concerne le noyau. Donc, quelque chose d'assez technique. Donc, je vous avais annoncé, je crois que c'était la semaine, il y a deux semaines ou l'autre émission d'avant, que Greg Krau-Hartmann, voilà, c'est ce nom, avait quitté Novell-Sues pour passer à la Linux Foundation. Et donc, maintenant, il s'occupe du projet Long Term Support Initiative. On en avait parlé dans cette émission d'ailleurs.
Oui.
Ce projet, en fait, de faire un peu comme une Ubuntu, finalement, LTS, c'est-à-dire des mises à jour qui durent beaucoup plus longtemps que des versions d'entre-deux, finalement. Donc, on vous l'avait dit qu'il y avait de nombreuses entreprises qui avaient décidé de participer à cette initiative, Hitachi, LG Electronics, NEC, Panasonic, Qualcomm, Atheros, Renesas, Samsung, Sony et Toshiba. Oui, ils sont plus nombreux aujourd'hui, d'ailleurs.
Tout ça.
Oui, tout ça, oui. Et c'est pas les moins importants, finalement, parce que je vois Qualcomm ou Samsung, voilà, c'est quand même du beau monde. Donc le premier noyau qui devrait bénéficier de cette maintenance, ce serait le noyau 3.0. Le noyau qui a servi un peu de base de travail à ces LTS justement, c'était le 2.6.32 qui a été le noyau de référence qui a été maintenu pendant 823 jours et ce sont 3349 patchs qui ont été appliqués. Exactement. Sur le noyau. On va pas vous expliquer, on va pas lire en détail parce que c'est absolument c'est absolument dantesque. D'ailleurs, merci à Patrick G de LinuxFR pour l'explication. Et donc, un noyau en fait spécifique est élu chaque année, donc élu et baptisé long terme et donc maintenu pendant les deux prochaines années. Effectivement, comme on l'avait dit rétrospectivement, ce modèle de long terme support sera bien plus applicable aux entreprises et qui utilisent du matériel embarqué, qui n'ont pas envie de faire des mises à jour.
Voilà,
c'est surtout ça en tout cas le. Donc voilà. Et on peut aussi noter que Greg Hartmann travaille aussi avec des développeurs Debian. Donc on peut saluer de chaque côté Linux Foundation, Debian. Alors on sait que ça a toujours été plus ou moins la guerre. En tout cas, voilà, Debian a toujours fait son petit truc dans son coin, on va dire.
Ouais, je sais pas.
Plus du côté GNU en fait. Plus du côté GNU plus du côté GNU. Donc voilà à peu près ce qu'il dit, en tout cas à la fin de son commentaire. Je suis fermement convaincu que sans leur aide, le noyau 2.632 n'aurait pas eu le succès qu'il a rencontré. Les utilisateurs des produits Red Hat et Suse ont une sacrée dette envers eux. Voilà, donc le commentaire.
J'aime cette conclusion.
Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup cette conclusion. Évidemment, c'est pas idyllique, mais en tout cas, ça avance. Les uns se réconcilient avec d'autres et on marche main dans la main. Donc, tout va bien de notre côté, on va dire. Voilà. Dans notre système, dans notre beau système d'exploitation GNU Linux. Et bien, voilà, c'était même la fin des news.
Déjà, ouais, des actualités.
Bon, des actualités.
Ça va pas être facile.
Et en plus, c'est moi qui ai mis en place ce truc-là. Donc, voilà.
On passe au focus.
Oui,
alors,
on passe au focus parce qu'à l'actualité, il n'y avait rien du
c'était
tout.
Un pendant... pauvre.
C'était pauvre. C'était un peu en actualité. Pauvre.
C'est vrai. On aurait peut-être pu un petit peu pousser sur la sortie de Arch Linux ARM.
Tu veux peut-être en parler ?
Il
nous reste du temps, tu peux en parler. Hein.
J'ai pas trop poussé le sujet.
En gros, Arch Linux sur plateforme ARM comme Debian.
Voilà,
sur ARM, il n'y a pas grand chose. Hein.
Non, justement, pauvre.
Ouais,
c'est très pauvre.
Distribution Linux, ARM, c'est ce qui équipait aussi certains netbooks.
Oui.
À une certaine époque, hein, il y avait l'Intel Atom, mais il y avait aussi des processeurs ARM. Donc, c'est vrai que.
L'avantage de l'ARM, c'est au niveau de la consommation électrique.
Ouais.
Mais j'entends sans arrêt des annonces. C'est ça le problème. Il y a sans arrêt des annonces, mais il n'y a rien qui vient finalement. Parce qu'en ARM, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, propriétaire? On a Windows, mais je ne sais même pas s'ils sont adaptés pour l'ARM.
Si, si. Je crois en tout cas, Windows 8 sera ARM.
Oui, mais c'est une version spéciale. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est une version spéciale. Bon, on ne va pas faire de troll parce que c'est pas
payant.
Et c'est propriétaire.
Ah mince, sans déconner.
Et c'est pas libre. Et ça pue. C'est ce que tu veux.
Donc, allez, on enchaîne sur le focus.
On enchaîne sur le focus.
Cette semaine, Ghislain, tu vas nous parler donc de Arduino, ce circuit imprimé qui fait de plus en plus d'émules. Ghislain, on t'écoute.
Et ça sera juste après générique. Merci Alain. Effectivement, je vais vous parler cette semaine du Arduino dans ce focus. Voilà pourquoi j'ai introduit le sujet avec le Raspberry Pi tout à l'heure. Donc, ce Arduino commence ou a déjà commencé à faire des émules, car voilà, c'est un rêve inavoué de hacker, le pouvoir de contrôler n'importe quel objet grâce à un simple petit circuit imprimé. Alors le Arduino peut se monter soit en l'assemblant soi-même ou en l'achetant préassemblé. Et surtout, il est le pont entre les programmeurs sur ordinateur et les bidouilleurs en herbe de matériel électronique. Son développement est open source, les plans sont d'ailleurs fournis, ce qui facilite effectivement sa prise en main par les plus curieux d'entre nous, ou ceux qui ne se contentent pas que d'aller sur Facebook dès qu'ils ouvrent leurs ordinateurs. Je referme la parenthèse trollesque. Le projet Arduino a commencé à l'origine à Ivrea en Italie dans une société qui s'appelle Olivetti. Je crois que c'est une société d'ailleurs.
Olivetti.
Ça ne me parle pas. Je crois qu'ils font des ordinateurs ou ils font des trucs pour les entreprises. J'ai pas été trop
ça me parle, mais je sais plus ce qu'ils font, mais c'est une marque que j'ai déjà vue en tout cas.
Moi aussi, c'est une marque que j'ai déjà vue. Donc c'est en Italie en 2005, dans le but d'initier des étudiants dans la programmation. Donc ce qu'on disait tout à l'heure avec le Raspberry Pi. Dans la programmation de microcontrôleurs et la conception électronique. Donc le Arduino, comme dit précédemment, c'est un petit circuit imprimé, rien de plus, rien de moins, équipé d'un microcontrôleur qui sert à interfacer un objet électronique ou une tâche particulière d'un objet vers un ordinateur. Très utile, par exemple, hein, je donne plein d'exemples, en domotique, pour le contrôle d'appareils ménagers, une cafetière, c'est peut-être un aspirateur.
On a vu ça à Bretagne Télécom,
Oui.
Télécom Bretagne,
oui, remet ça dans l'autre sens. Le chauffage central, j'avais vu un journal sur Linux FR, quelqu'un qui avait fait un très long journal où il expliquait, je crois que c'était Arduino qu'il avait utilisé, hein, il me semble, dans le but donc, de récupérer les informations vers l'ordinateur et de pouvoir le contrôler directement. Tu parlais d'ailleurs de Télécom Bretagne. Et donc, quand on a fait notre visite, effectivement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, par exemple, une cafetière qui était reliée, donc interfacée avec un Arduino, reliée à un ordinateur où on pouvait suivre sa consommation, donc les pics d'énergie, quand est-ce que les gens prenaient leur café, tout ça.
Combien de cafés ont été consommés?
Ça, c'est plutôt utile. Ça permet de redresser un peu les vis si vraiment il y a trop de gens à la machine à café. Mais il peut aussi servir pour contrôler des logiciels sur un ordinateur. Donc par exemple, moi qui fais de la musique ou qui fais du montage, donc le montage par exemple de cette émission, donc sur des choses bien plus complexes comme SuperCollider ou MaxMSP. Alors ce sont des logiciels en fait qui utilisent des mathématiques pour faire de la musique.
D'accord.
Pour les connaisseurs d'ailleurs, je vous recommande d'écouter Otekr sur Warp Records. Ce sont des gens en fait qui utilisent ce genre de matériel et justement ce genre de logiciel, et c'est pour ça que leur musique est assez spéciale, c'est parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Le module est construit autour d'un microcontrôleur qui est en fait une mémoire dans le but d'inscrire des instructions de programmation, ce qu'on appellerait trivialement un firmware. Donc celui du Arduino est un Atmel AVR ainsi que divers autres modules dont un régulateur linéaire qui permet de réajuster la tension à 5 volts. Alors, c'est très technique.
En effet.
Mais pas tant que ça finalement, le principe est le même et permet de faire une multiplicité de tâches mais avec un seul truc finalement, voilà.
D'accord.
Alors la programmation se fait grâce à une connexion série sur le circuit, puis un convertisseur se charge de le faire passer d'une interface à l'autre pour aller sur l'ordinateur. Donc cela peut être de l'USB, aujourd'hui c'est plus ce qu'il y a de plus répandu,
j'imagine, hein.
Du Bluetooth, ou du RS-232. En fait, c'est du connexion série, oui, mais par série. Ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très rare. Ou si vous avez encore une vieille tour des années 90.
Avec les imprimantes série.
Ah oui, les imprimantes série avant le port parallèle. Ouais. Hein, pas mal. Pas mal. Alors, la partie la plus importante, à mon sens, parce que, effectivement, on peut bidouiller l'Arduino, on peut en faire ce qu'on veut, on peut détacher des composants, on peut en ressouder. Vraiment, on fait ce que l'on veut. Il y a un côté programmation. Donc, de ce côté-là, tout se fait grâce à un logiciel codé en Java, libre, multiplateforme. La programmation utilisée, c'est pas plus compliqué, c'est du C. Voilà.
D'accord.
C'est du C. Lié à la bibliothèque de développement d'Arduino et qui permet ainsi le contrôle total du circuit. Et donc, vous écrivez vos petits programmes, pouf, vous le updatez dans le microcontrôleur du Arduino et poum, c'est bon, c'est parti. Bon, c'est plus compliqué dans les. C'est plus compliqué, mais pas plus que ça finalement. Alors, ça rend aisé la programmation parce que le C, c'est un langage de programmation informatique. Sans doute le plus utilisé au monde,
oui.
De toute manière. Le point de passage pour tout utilisateur désireux de faire de la programmation. Oui. D'ailleurs, il faut que je finisse mon C en 20 heures. Absolument. j'ai toujours pas touché à mon C en 20 heures. Il n'y a pas de brevet sur l'Arduino. En fait, c'est simplement le nom qui est protégé. Hein. Le reste, d'accord, est du LGPL et du Creative Commons, il me semble, pour...
Donc même le matériel.
Ouais, même le matériel, il y a
le matériel est open source.
Le matériel est open
ça,
source.
Bien,
il y a,
ça.
En fait, c'est le nom et tous les projets dérivés autour qui sont protégés par une licence. Le reste, c'est que du copyleft. Donc voilà, tranquille. Et c'est ça en fait qui fait la popularité de la chose finalement.
Oui.
Parce
oui.
que n'importe qui, toi, moi, quelqu'un qui veut plus faire forcément. En tout cas, ça s'adresse à des gens qui ne veulent plus faire que de l'informatique, qui veulent vraiment toucher à autre chose, qui veulent utiliser l'informatique comme un outil à part entière.
Donc c'est pour ça que tu disais tout à l'heure qu'on peut, si on le souhaite, acheter les pièces et monter soi-même.
Ah oui, on peut monter soi-même,
fait,
oui.
Son
oui,
Arduino.
Oui. Oui, tout à fait, oui. Pour ce qui me concerne, j'en parlais tout à l'heure au niveau de la musique par exemple, on peut par exemple, alors il y a un contrôleur qu'on peut trouver et qu'on peut acheter, alors il est assez cher, qui s'appelle le Monome. Alors je sais que je vais faire plaisir à mes amis de Ch'tinux parce qu'ils en avaient parlé dans leurs précédentes émissions.
Ah, oui.
Alors le Monome, c'est une espèce de, tu vois, c'est un espèce de grand carré avec 128 touches, je crois que ça peut différer, c'est 64 ou 128 touches que tu relies à ton ordinateur et tu contrôles. Comme c'est du MIDI, forcément, tu contrôles n'importe quoi. Tu contrôles tous les logiciels du monde. Tu vois, là, par exemple, ma surface, là,
ouais.
Tu imagines tous les carrés.
Ouais.
Tu imagines 128 touches comme ça.
D'accord.
Donc, c'est extrêmement puissant. Donc, on peut le commander. C'est assez cher à commander, mais on peut aussi le monter soi-même.
Okay.
Et dans ce cas, le projet s'appuie sur Monome. Il est supporté par Monome, mais s'appelle le Arduinome, puisqu'il utilise des cartes.
Oui,
Arduino,
d'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc c'est un projet moi qui personnellement m'intéresse vu que je suis passé dans un autre secteur d'activité en termes d'informatique et non plus simplement allumer mon ordinateur pour jouer, par exemple. Bonjour à tous les joueurs. Si sous Linux évidemment. Et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on peut vraiment tout faire soi-même. C'est juste génial pour ça. C'est très intuitif. D'ailleurs j'ai trouvé un tutoriel dans un magazine consacré à Linux.
D'accord.
Effectivement, on pouvait faire. C'était très simple, quoi. Faut juste avoir peut-être quelques notions, mais je dirais que c'est pas non plus quelque chose de plus compliqué.
En lisant un peu de doc, ça se fait.
Ah oui,
quoi.
Oui, en lisant de la doc, ça se fait. D'accord. Sans problème. Hein. Alors là, dans la documentation, par exemple, il nous proposait de. Je vais ouvrir le livre parce que je l'ai pas ouvert. Il nous proposait, par exemple, de programmer une boîte de musique électronique
développée sous Arduino,
voilà, sans expérience préalable nécessaire. Voilà, là par exemple, devant moi, je tiens tous les éléments pour faire une boîte à musique sous Arduino.
Oui, bien.
Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que par exemple, vous n'avez personne chez vous. Vous rentrez tard le soir, il fait nuit. Vous avez envie en fait d'allumer vos lumières à une certaine heure et de les éteindre automatiquement à une autre heure en fait. Et dès que vous vous approchez de cette lumière, vous l'éteignez. Vous pouvez très bien dire à partir comme ça peut être aussi connecté sur Internet. Vous pouvez très bien dire à partir de l'interface, à telle heure, tu allumes les lumières, enfin, tu allumes ta fonction. Dès que je passe, moi, il y a les lumières. Et à telle heure, pouf, tu les coupes. Comme ça, c'est terminé. Voilà, ça fait de l'économie, par exemple. Donc, ça permet des applications énormes. Que ça, et surtout en domotique, finalement. Hein. Bon, après, il ne faut pas,
c'est ça, l'avantage,
faut pas surcharger la maison de Arduino.
Non, c'est sûr. Ouais.
Donc, il faut trouver vraiment un projet qui soit. Mais il existe quantité de tutoriels sur Arduino. Donc, ça ne manque pas sur Internet. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à écouter l'intervention de Hugues Aubin au Fab Lab à Rennes, diffusée sur NewWiz, notre nouvelle plateforme de diffusion. Il parlera mieux que moi de tout cela et on vous mettra le lien, bien entendu, sur ce site. Ouais. Tous les liens.
Donc, pour info, Hugues Aubin, c'est le monsieur technologie d'information et de la communication de Rennes, donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est TIC, c'est lui qui a poussé pour monter le Fab Lab et c'est également lui qui a poussé très 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 fort pour l'essor de l'open data à Rennes. Donc c'est un monsieur qui est très branché open source et cool. Toutes les choses comme ça. Donc,
tu l'as rencontré au fait la semaine dernière ?
Non, je l'ai pas vu.
Ah, tu l'as pas vu.
Non,
d'accord.
Pas vu.
T'as été au
Non, j'ai pas eu le temps.
T'as pas eu le temps. D'accord. Non. Parce que on devait tu devais normalement le rencontrer.
Un jour j'irai au Lab Fab.
Ouais. si on peut essayer de prendre contact avec lui, ça serait pas mal. Donc voilà pour le Arduino. Et remercie également Baptiste Gauthier de Télécom Bretagne qui nous a fait une visite de ses bureaux où on en a pu découvrir une application concrète du Arduino. On vous met tous les liens sur le site internet, sur le nouveau site internet. Mais voilà, donc pour ma partie c'est bon, c'est ok.
Très intéressant.
J'explique à peu près. Bon, je suis pas rentré dans les détails parce qu'en fait, j'ai pas expliqué qu'il y avait une bibliothèque qui s'appelle WeRing.
Oui, d'accord.
Comme je vous l'ai dit, Hugues Aubin s'occupera un peu plus de vous l'expliquer en profondeur. Si vous êtes en tout cas autour de Rennes, n'hésitez pas à aller au Fab Lab.
Ouais.
Très intéressant.
Ils ont une imprimante 3D.
Oui, qui marche.
Oui.
En tout cas, quand ils ont capté cette conférence, elle marchait depuis 10 minutes.
Ouais. Il venait tout juste de la monter.
Oui,
ouais.
Tout à fait. Donc, une belle imprimante 3D. On en reparlera, je pense, dans les prochaines émissions dans Flux Libre. Fin du focus. De la musique pour se détendre les oreilles. Oui, la musique est partie derrière le focus, du coup.
Oui, on a changé.
On a changé un peu. Et en plus, on est largement en avance. Tranquille.
Bon, bien.
On va pouvoir troller tranquillement après la sélection. Pour la sélection en flux libre. La musique. Attention, un tout petit truc un peu plus nerveux là. C'est Outsider, Something Like This, sous licence Creative by SA. Creative Commons by SA. C'est toujours important de le rappeler. Et on revient juste après pour la décalisation de Alain. A tout à l'heure.
A tout à l'heure.
Thank you.
Outsider, Something Like This, dans En Flux Libre numéro 8. Et voilà, j'attendais que la piste se finisse. Bonne petite musique bien pêchue. Hein.
Ouais, ça dépote.
Drum and bass, ouais, très rapide, histoire de faire le lien et le pont entre la première partie de l'émission et la deuxième que l'on attaque avec la dégeekalisation d'Alain. C'est parti. La dégeekalisation aujourd'hui est démarrage d'un OS sous GNU Linux. Attention, dégeekalisation super technique après le focus.
Non, ça va.
Non, ça va.
Ça va, on a déjà fait pire.
Claire, hein. Claire les explications. Il faut que nos auditeurs comprennent comment un OS démarre sous... comment votre OS démarre pour être plus exact. Je t'en
C'est
prie.
C'est parti. Hein. Donc, alors le noyau Linux, qu'on appelle plus communément le kernel, c'est le cœur du système. Et autour de ce noyau, il y a plusieurs modules qui s'articulent. Les modules, c'est ce qu'on appelle aussi les pilotes de périphériques, qui permettent d'interfacer le noyau avec les différents périphériques du style bon, bah, carte son,
carte Wi-Fi,
etc. etc. Alors on va voir un petit peu de plus près les étapes de démarrage d'un PC. On va commencer vraiment depuis le début, c'est-à-dire à partir du moment où on appuie sur le bouton Power. La toute première étape sur laquelle on va passer rapidement, c'est le BIOS. BIOS, ça veut dire Basic Input Output System, donc en français, système d'entrée-sortie basique. Donc celui-ci teste rapidement tout le matériel, il recherche les périphériques d'amorçage notamment, c'est-à-dire sur les périphériques sur lesquels il peut trouver le MBR. Alors, encore un autre
le
terme technique.
Le fameux MBR, qui a donné des surfroids à beaucoup de monde,
oui,
je pense.
Le MBR, c'est le Master Boot Record, c'est un petit secteur de 512 octets en début de
disque dur.
En début de disque dur, oui, qui contient la table de partition du disque, c'est-à-dire en fait, il va décrire où se trouve la première partition et où elle se termine, où commence la deuxième et où elle se termine, etc. Et c'est justement à cause de ces 512 octets-là qu'on ne peut que avoir quatre partitions primaires sur un disque dur. Ensuite, on est obligé de faire des partitions étendues. Bref, je m'attarde pas trop là-dessus.
En tout cas, pour le spécifique, pour le monde GNU Linux, hein. Attention. Parce que des partitions étendues pour Windows,
Si, ça marche exactement la même manière puisque c'est.
Mais
le système,
je crois que non, c'est Windows qui a du mal à marcher sur du logique.
Oui, c'est ça. Il a un peu plus de mal. Ouais. Lui, il aime bien avoir la première partition primaire du disque dur et sinon, ça arrive que ça parte un petit peu en sucette et qu'on ait des petits soucis. Ouais. Donc le BIOS va chercher le MBR, va chercher un MBR sur son disque d'amorçage. Une fois qu'il l'a trouvé, il le charge et il exécute le chargeur de démarrage qui s'y trouve. Donc le chargeur de démarrage, ça va être un logiciel comme Grub, par exemple.
Ouais. Donc, quand pour le plus utilisé aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. On aurait pu parler de Lilo aussi, oui. Mais Lilo est un peu plus ancien et beaucoup moins
beaucoup
pratique
moins
à utiliser.
Pratique,
ouais. Donc c'est donc dans le MBR que va être chargé et stocké l'exécutable de base de Grub. Et cet exécutable de Grub, il va aller ensuite chercher le fichier de configuration de Grub pour afficher les différents systèmes d'exploitation sur lesquels on peut démarrer. Et c'est là qu'il affiche sa petite fenêtre où on choisit sa distribution, où on peut même démarrer...
Selon ce qu'on a marqué dans le fichier de Grub.
Voilà.
Il y a en tout cas aujourd'hui le fichier où vous pouvez retrouver ces informations, c'est le grub.cfg.
Voilà.
À l'époque de Grub 1, c'était menu.lst, voilà, qui était trois fois plus facile à utiliser puisqu'il n'y avait rien en fait. Il y avait juste, pour vous expliquer, un fichier type menu.lst était juste les paramètres VESA, donc les paramètres, voilà. En fait, les cartes de la carte vidéo pour démarrer, donc c'est-à-dire l'affichage, la résolution, les couleurs et tout ça. Et ensuite deux lignes, trois lignes, quatre
trois
lignes, cinq lignes,
voilà.
En fait ça dépendait du nombre de distributions qu'on
voilà,
avait à l'intérieur,
ça, ouais. Mais on va dire trois lignes, ouais. Pour chaque distribution c'était trois lignes,
ouais, trois lignes, ouais, voilà. Pour chaque distribution, et ensuite trois ou quatre ou cinq blocs de trois lignes pour,
voilà,
dire où est-ce qu'était, par exemple, je sais pas, par exemple vous avez peut-être un multi-bouton Windows, où était le Windows, où était le, voilà. Où sont les autres distributions. Donc, et exactement. Mais par contre, voilà, le grub 2 et donc son fichier associé, le grub.cfg, est un peu plus compliqué parce qu'il est bien plus commenté, hein, il est plus commenté. Mm-hmm. Et puis deux, il faut toujours le régénérer pour qu'il puisse voir qu'effectivement il y avait d'autres distributions. Je t'en prie.
On continue donc. Une fois qu'on a choisi la distribution sur laquelle on veut démarrer, Grub va lancer le binaire du noyau correspondant qu'il va trouver dans slash boot sur votre partition. Donc si vous faites un ls slash sur votre distribution, vous verrez plusieurs dossiers. Vous verrez notamment un dossier slash boot et c'est là-dedans que se trouve votre noyau. Le noyau a donc un nom de type souvent vmlinux-la version du kernel. Sur Arch Linux, c'est tout simplement vmlinux-linux.
Ouais.
Et une fois qu'il a lancé donc le binaire du noyau, en tout cas qu'il l'a exécuté, ouais, il charge en RAM initrd, qui est une image disque RAM et qui contient les pilotes essentiels au noyau et essentiels au système. Donc par exemple, pour que le noyau puisse lire sur un disque SCSI, eh bien dans l'image initrd, on va trouver le pilote, le module pour pouvoir utiliser un disque SCSI.
Ce sont les fameuses trois premières lignes que vous voyez au tout départ.
Voilà, c'est ça.
Décompressing, alors il y a.
Voilà, c'est
ça. Vous voyez loading initrd, loading autre chose, je ne sais plus quoi, mm-hmm. Et puis décompressing, et puis là, voilà justement, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il passe le témoin.
Voilà, donc une fois qu'initrd est chargé, Grub passe le processus de démarrage au noyau. Et celle-là, c'est le noyau qui prend la main vraiment sur le démarrage. Puisque pour l'instant, le noyau, il a rien fait quoi, encore. Donc une fois que le noyau a récupéré la main, il initialise la mémoire, donc la RAM, il initialise les processeurs, il initialise les entrées-sorties, donc basiquement le clavier, écran, les périphériques de stockage également. Et ensuite, il utilise encore initrd pour charger les pilotes dont il a besoin pour accéder au système. Donc c'est là qu'il va pouvoir lire votre slash, tout simplement, votre partition racine, pour pouvoir donc lire tous les fichiers qu'il a besoin pour faire tout ça. Le fichier initrd est chargé une première fois en mémoire en tant que périphérique de stockage, et il est d'abord monté comme racine slash du système, une première fois, en lecture-écriture seulement. Donc voilà, initrd est monté en lecture seule et les pilotes et modules mentionnés plus haut sont donc chargés. Une fois les modules chargés, initrd est démonté en tant que slash, on ne l'utilise plus et c'est là que le noyau va aller chercher votre racine slash, donc c'est souvent slash dev, slash SDA par exemple, SDA1.
Là où est votre distribution.
Voilà, c'est ça. Et il monte la racine en lecture-écriture. Donc là, ça y est, c'est quasiment terminé pour le noyau. À ce stade, il est chargé en mémoire, il est opérationnel. Et on va commencer à lancer l'environnement utilisateur. On va l'initialiser et ça va conclure le processus de démarrage. Donc pour le processus de démarrage, c'est un programme qui s'appelle init qui s'en occupe, qui se trouve dans /sbin/init. Donc c'est sbin pour system binaries. Ce sont vraiment les binaires système qui appartiennent qu'à root, qui sont utilisés dans ce répertoire-là.
Root, donc précisons qui est ce fameux root. Ce n'est pas un utilisateur, c'est le super utilisateur.
Voilà, il a tous les droits,
il a tous les droits. Donc voilà. Par exemple, ne vous amusez jamais, au grand jamais, à lancer une interface graphique en root, parce que vous risquez de faire de sacrés...
Vous risquez gros.
Ouais, vous risquez gros.
C'est clair. Donc ce programme init, c'est le tout premier processus chargé par le système. C'est pour ça qu'on lui donne l'ID 1, le processus ID, puisque tous les processus ont un numéro d'identifiant, en fait, pour les hiérarchiser, et init possède le PID 1. Et c'est lui, ensuite, qui va s'occuper de lancer tous les processus qui sont derrière, donc il sera le père ou même le grand-père de tous les processus. Et init va lire un fichier de configuration situé dans /etc, qui est /etc/inittab, qui va décrire les programmes et processus à lancer en fonction des circonstances.
Et c'est justement comme ça qu'on peut dépanner très facilement un ordinateur.
Tout à fait.
Parce que, pour vous expliquer très simplement, il y a différents niveaux d'init.
Voilà.
Il y a le 1, le 3 et le 5.
Voilà, en gros.
Voilà.
Il y en a 6 en tout.
Oui, il y en a 6. Mais pour simplifier, si par exemple vous avez un problème, mais je crois qu'Alain me dit en fait qu'il va en parler juste après.
Exactement.
Ouais. je voulais te court-circuiter. Ah oui, effectivement, j'avais pas lancé mon écran.
Donc,
je t'en prie.
Il n'y a pas de souci. Donc en tout premier lieu, init lance un script qui s'appelle rc.sysinit et qui réalise les opérations d'initialisation de système d'exploitation. Donc il va d'abord initialiser la variable pass qui va définir en gros où se trouvent les binaires.
La variable environnement.
Voilà, les variables environnement. Donc la variable pass, c'est ce qui permet quand je lance, je suis dans une console, j'écris Firefox, j'appuie sur entrée, ça me lance Firefox, il a trouvé tout seul où se trouvait le binaire. C'est grâce à la variable pass qu'il fait ça. Donc pass, P-A-T-H. Rc.sysinit pardon, active également le swap. Il monte aussi les partitions en suivant le fichier /etc/fstab que vous pouvez consulter d'ailleurs. Ouais. Il initialise le nom du système, donc le hostname. Il vérifie l'intégrité du système de fichiers. Il initialise le plug and play. Il initialise l'horloge du système et il détruit tous les fichiers de verrouillage. Donc ce sont les fichiers .lck souvent qui se trouvent dans /var. Qui servent, si un fichier est ouvert en lecture-écriture, il y a un LCK dessus, et comme ça on ne peut plus le remodifier ou le réouvrir ou le supprimer via une autre interface.
C'est un peu selon le même principe que on prend l'exemple d'Arch Linux avec mm-hmm. Pacman, où on ne peut jamais lancer deux fois la même opération sous Pacman parce qu'il y a un lock, il y a un verrou qui est appliqué dessus, il y a un fichier qui est verrouillé.
Il y a un fichier, à partir du moment où Pacman trouve un fichier pacman.lck, ouais, il va pas se lancer. C'est DBK.
Oui.
Ah, ça a peut-être changé.
C'est un autre nom.
Peut-être que ça a changé. Ouais. Donc tous ces fichiers-là de verrouillage sont détruits par rc.sysinit au démarrage. Et d'ailleurs, dans Arch Linux, j'ai eu une époque où il y avait des petits soucis avec Pacman et où le fichier pacman.lock n'était pas forcément détruit. Et donc, il fallait le détruire à la main.
Mais c'est toujours plus ou moins ça.
Ça arrive encore.
Quand on fait Pacman, on a dans la console, Pacman est verrouillé, /lib/pacman/. Mm-hmm. Et on est obligé de faire à la mano un petit RM en route, bien entendu.
Voilà. Sinon, on peut pas. Et donc, alors on parlait des run level tout à l'heure, lancés par Sysinit. Donc, il y a 6 run level différents.
7.
7 run level, autant pour moi, numéroté de 0 à 6.
Ah, joli. Hein.
Le run level, en fait, ça correspond à des escaliers.
On aurait une commande particulière, enfin quelque chose.
Voilà, des choses en plus qui sont lancées.
Voilà.
Donc le run level 0, ça veut dire qu'on arrête le système. Donc quand on tape Alt sur sa machine,
ou reboot.
Alors quand on tape Alt, c'est un init 0 qu'on fait, tout simplement. Quand on tape reboot, c'est un init 6, puisque le run level 6, c'est pour redémarrer le système. Le run level 1, c'est un mode mono-utilisateur, donc ça c'est pratique pour faire du débugage aussi, puisqu'on se retrouve directement, dès que le kernel est lancé, on se retrouve directement en route sur son système, il n'y a pas besoin de se loguer ni rien.
Ah si.
Non.
Tu te loques pas, mais tu marques ton mot de passe. Pardon, oui.
Non.
Tu te loques pas. À chaque fois, j'ai eu
Init 1, non. Init 2, oui, mais pas init 1.
Alors, comment ça se fait que je marque sur ma ligne de kernel moins, forcément, puisque je vais aller en init,
en init 1.
J'ai mon processus de démarche qui commence.
D'accord.
Et là, j'ai mon contrôle D si je veux continuer derrière. Ouais. Moi, je suis obligé à chaque fois de marquer mon mot de passe. Ah, sur Arch Linux.
Avec quelle distribution ?
Arch Linux, FrugalWare.
La dernière fois que j'ai utilisé ça, j'ai pas eu ça.
Oui, à chaque fois. C'est pour ça.
Je vérifierai.
je l'ai encore utilisé vendredi.
D'accord, je verrai ça. Donc, ça, c'est l'init 1, mode mono-utilisateur. Le run level 2, mode multi-utilisateur, sans NFS. Donc NFS, c'est Network File System, c'est pour faire des montages réseau distants. L'init 3, qui est souvent utilisé quand on n'a pas besoin de mode graphique, c'est le mode multi-utilisateur avec NFS. Le run level 4, lui, n'est pas utilisé ou il est réservé pour des usages futurs. Enfin, le run level 5 pour le mode multi-utilisateur avec session graphique. Et donc c'est ça qui est utilisé principalement par toutes les distributions dès qu'on lance son